projection privée.
Bonjour. Le sujet de cette émission, c'est un livre remarquable sur Raoul Ruiz, le grand cinéaste chilien, franco-chilien pourrait-on dire, puisque l'essentiel de sa carrière, même s'il a bourlingué dans le monde entier, est tout de même en France. Donc Raoul Ruiz, le magicien, aux éditions des Impressions Nouvelles, et il est dû à deux auteurs bien connus, d'une part Benoît Peters et d'autre part Guy Scarpetta. Alors il fallait effectivement, je crois, des gens comme Guy Scarpetta et Benoît Peters pour parler de Ruiz, parce que c'est une œuvre multiforme qui sollicite des connaissances en peinture, en littérature, dans tous les domaines, et bien sûr en cinéma. Guy Scarpetta est un romancier, également un essayiste, il est écrit dans Art Press, ce qui est une grande revue d'art, justement. Et puis, Benoît Peters, bien sûr, est connu pour sa grande connaissance de la bande dessinée. Il vient de sortir, d'ailleurs, je crois, aux mêmes Impressions Nouvelles, un livre sur Hergé, sur la Castafiore.
Une lecture des bijoux de la Castafiore.
Des bijoux de la Castafiore. Mais il a aussi écrit sur Paul Valéry ou Derrida. Donc, c'est un homme polyvalent, comme Guy Scarpetta. Et Raoul Ruiz, lui-même, était un homme polyvalent. Alors, on va peut-être commencer par des anecdotes qui contiennent souvent beaucoup de vérité. Les anecdotes, c'est-à-dire, je vais vous demander à chacun d'entre vous, c'est un livre très illustré, magnifiquement illustré, qui contient des études sur les films particuliers, une douzaine de films qu'analyse Guy Scarpetta. Benoît Peters fait le don de 100 pages d'entretien inédit qu'il a eu avec Raoul Ruiz sur une période de 30 ans. Il y a aussi des entretiens avec ses acteurs comme John Malkovich, comme Edith Scob, Melville Poupeau, Elsa Zilberstein et bien d'autres. Et bien sûr, son épouse, sa monteuse, Valeria Sarmiento, également cinéaste de talent. Alors, Benoît Peters, de Hergé à Ruiz, comment s'est passée cette rencontre avec lui cette amitié sur tant d'années?
Je me souviens, comme étudiant, d'avoir été ébloui par l'hypothèse du tableau volé. C'est le premier film de lui que j'ai vu, une adaptation libre et étrange de Klossowski, un jeu avec les tableaux vivants. Et j'ai vu l'un ou l'autre film, on voyait à l'époque à Paris comme ça de ces films un petit peu rares, certains même de sa période chilienne. Et un jour j'ai eu l'occasion d'aller à une petite rétrospective, c'était en 1982, dans un petit village en Belgique, et il avait apporté avec lui une version de travail en montage des Trois couronnes du matelot. Et j'ai été ébloui. Il disait, bon, le film, il est imparfait, il manque, il y a des croix à certains moments pour indiquer les fondus, les trucs, il manque la musique définitive, mais j'ai été vraiment transporté, et malgré le tempérament peut-être plus rationaliste, plus classique qui est le mien et le baroque qui était le sien, je ne sais quelle alchimie s'est produite et nous nous sommes très bien entendus. On a rêvé dans les mois qui suivaient d'une adaptation de Jean Rey. Il voulait faire Malpertuis, mais qui avait déjà été adapté, c'était un peu compliqué. Et finalement, il a fallu pas mal d'années pour que des projets se concrétisent. On a écrit un film ensemble, La Chouette Aveugle. Mais surtout, j'étais toujours fasciné par sa conversation. Je trouvais que sa manière de raconter, le mélange chez lui d'anecdotes et de réflexions qui s'y mêlaient de manière indistincte. Il racontait une anecdote sur son enfance et puis tout d'un coup, ça y est, on était déjà dans son cinéma. Et je me suis dit, il faut capter cette voix. Et chaque fois que j'en avais l'occasion, trop rarement hélas, je branchais le micro. Je me souviens d'un soir, après le dîner, on commence un entretien, il raconte des épisodes de sa jeunesse qui sont dans le livre. Et puis tout d'un coup, il me dit, ça c'est bien un entretien à deux cognacs. Et nous avons continué la conversation.
Guy Scarpetta, votre rencontre avec Ruiz, votre première rencontre.
C'est pareil, j'avais vu quelques films, ça remonte au début des années 80, 83 ou 84, quelque chose comme ça. J'avais vu quelques films qui m'avaient fasciné, puis c'était l'époque où j'étais totalement investi dans un travail sur les formes de résurrection du baroque dans la création contemporaine, dans tous les domaines. J'ai écrit un livre là-dessus, et évidemment, je pensais que Ruiz avait une place dans ce panorama. où je parlais à la fois de peinture, de littérature, etc. Et ce que j'avais vu, en plus, m'avait donné l'idée que l'univers de ce cinéaste était finalement dans un rapport étroit avec l'univers des grands romanciers latino-américains que j'aimais. C'est-à-dire que la thématique de Ruiz, la manière de mélanger les histoires, d'inventer des couloirs temporels qui coexistent et qui de temps en temps se télescopent, tout ça était proche de Borges, était proche de Cortázar, était proche de Carlos Fuentes. Et donc j'ai été le voir pour un entretien. Et puis ça a été un peu le coup de foudre, quoi. C'est-à-dire que il m'a fait un numéro ce jour-là que je n'oublierai jamais. Si vous voulez les anecdotes, il m'a raconté à un moment l'histoire d'un rio dans la cordillère des Andes, enfin au Chili, où un missionnaire catholique avait été tué par les Indiens. Il était devenu un martyr. Et du jour où ce martyr avait eu lieu, tous les cailloux que roulaient Ce ruisseau avait une croix sur eux, avait le dessin d'une croix. Bon, alors, j'y vois une espèce de légende comme il le pouvait en saisir, en raconter, en intégrer dans ses films. Et puis, au moment de sortir, dans l'entrée, il y avait une grande armoire. Il ouvre la porte de l'armoire et je vois un tas de cailloux qui tous avaient une croix dessus. Et donc, je suis sorti un peu titubant. Et sur le palier, je me suis dit, c'est tout. S'il m'avait raconté l'histoire à l'envers, ça aurait été parfaitement rationnel. C'est-à-dire, il y a un rio où les cailloux ont un dessin de croix dessus. Et à partir de là, on a inventé la légende du missionnaire assassiné. Et là, je me suis dit, mais c'est ça son art. Ça consiste simplement, en inversant le procédé rhétorique, à créer un univers imaginaire qui n'existe pas ailleurs.
Alors c'est vrai que Raoul Ruiz, je l'ai bien connu aussi, mais une chose qui me frappait, on connaît les fameuses listes que les surréalistes avaient établies, le fameux Victor Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête, etc. Enfin, tous les gens qui étaient surréalistes par certains côtés. Et je trouve que dans le cas de Raoul Ruiz, on avait envie de dire qu'il a été surréaliste tout le temps. C'est-à-dire que je trouve qu'entre sa création proprement dite, ses films, et son comportement, ce qu'il racontait, c'était toujours étonnant. C'est-à-dire c'était une surprise permanente. Il vivait quasiment de façon surréaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, on a l'impression que c'est même pas une influence, mais une rencontre, que c'est quelque chose qui dès l'enfance faisait partie de lui, d'établir des connexions étranges. Il raconte par exemple à un moment dans nos entretiens que pendant une année, il a été persuadé que Kafka et Borges étaient une seule et même personne. Il avait eu une mauvaise information, il avait mélangé les deux, et finalement, pour lui, c'était un seul et même écrivain, ce qui, après tout, est une idée assez borgésienne. Il y avait chez lui constamment une façon de prendre les choses de manière oblique. Et même dans la période de l'unité populaire au Chili, où il a joué un rôle important, c'était un jeune cinéaste, mais un cinéaste déjà assez en vue, ses films ne correspondent pas du tout à l'idée d'un cinéma politique, d'un cinéma engagé. C'est un cinéma du paradoxe politique, qui posait des questions et qui apportait des réponses très inattendues. Je me souviens par exemple d'un des premiers films que j'ai vus, assez rare, qui s'appelle « L'expropriation », et qui raconte l'histoire d'un propriétaire terrien qui, dans le cadre de l'unité populaire, veut donner ses terres aux paysans, et les paysans les refusent. Et donc voilà la situation de départ, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'acte militant, voilà le patron qui renonce à sa position de patron, pourquoi ces paysans ne veulent-ils pas les terres et en fait se rendre compte qu'ils vont avoir beaucoup d'ennuis, que ça va être... Et donc il était controversé à l'époque. Quand il est arrivé en France, le premier film qu'il a fait, Dialogue d'exilés, au lieu de présenter de manière héroïque les exilés, montre toutes les combines, les disputes, les bizarreries, les loufoqueries entre eux, il s'est mis à dos d'un coup toute la communauté chilienne, et Valeria Sarmiento, sa femme, dit « ça nous a obligés à nous intégrer beaucoup plus vite au monde français et à ne pas rester dans la position des malheureux exilés entre soi », qui par la suite ont tous trouvé le film « Dialogue d'exilés » fabuleux, et c'est un film qui a très bien vieilli, mais sur le moment qui ne correspondait absolument pas à l'attente. Et ça, c'est toujours Raoul. Derrière ça, on a le temps retrouvé, adapté Proust, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le dernier volet de La recherche du temps perdu et il le traite comme un film. Et il disait, mais pour moi, c'était naturel. Au Chili, un jour, je suis tombé sur un livre, c'était Le temps retrouvé. Et pour moi, c'était le début de La recherche du temps perdu. Donc, quand je l'ai adapté au cinéma, c'était évident.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un trait d'humour de Raoul Ruiz. Quand il est arrivé en France, il remarquait que dans les soirées, la France, on le sait, est un pays de salon depuis le XVIIIe siècle et que chacun en France est sous le regard des autres et a toujours peur de s'exprimer. En Amérique, les gens parlent spontanément, disent ce qu'ils pensent, ils n'ont pas peur du qu'en dira-t-on. En France, on a une sorte de retenue parce qu'on a peur d'être jugé. Et Raoul Ruiz remarquait que dans chaque soirée, dès qu'une personne partait à 11h30, on commençait à débiner la femme avec qui il était ou la bêtise qu'il avait pu dire ou le nœud de sa cravate. Et donc, lui, il était épuisé de fatigue parce qu'il partait le dernier à 3h du matin, une fois que tout le monde était parti, de peur qu'on dise du mal de lui en sortant des soirées. C'était typiquement l'humour de Ruiz. Alors, Guy Scarpetta, oui, le Chili, c'est tout de même, il faut partir de là. C'est-à-dire, c'est ses origines, ses parents, déjà.
Oui, mais je voudrais revenir un petit peu sur la question du surréalisme, si ça ne vous ennuie pas, parce que, en effet, il avait quelque chose qu'on pourrait rattacher à cela. C'est quelqu'un qui vivait de plein pied avec son imagination tout le temps. La perception rationnelle du réel n'existait pas. L'imaginaire était toujours en train de fonctionner. Les dîners chez lui, puisqu'on a commencé à en parler, ça commençait normalement et peu à peu arrivaient des théories délirantes, des histoires invraisemblables, etc.
Et des bouteilles de vin.
Et pas mal de bouteilles de vin. Mais il était de plein pied avec son imagination tout le temps. Et je crois que je connais personne qui, plus que lui, ait répondu à la fable de Borges, c'est-à-dire ces gens qui considèrent que tous les systèmes de métaphysique ou tous les systèmes religieux sont des branches de la littérature fantastique. Les idées ne l'intéressaient que s'il y avait un récit fantastique qui pouvait en jaillir. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un type qui avait une imagination absolument débordante. Je connais peu de cinéastes. Et c'était dans la vie quotidienne. Cela dit, par rapport au surréalisme, j'introduirais une nuance. Par exemple, on l'a souvent comparé à Buñuel et lui-même s'en réclamait. Ne serait-ce que, par exemple, dans ce film magnifique qui s'appelle « Combat d'amour en songe », il y a une des cellules thématiques, puisque c'est plusieurs cellules thématiques qui se télescopent et qui se rencontrent, où il y a une querelle entre un moliniste, un partisan du libre-arbitre et un partisan de la grâce, par exemple, de la détermination par la grâce, et un jésuite partisan du libre-arbitre. Bon, or ça, c'est l'écho
de la Voie lactée.
Évidemment, d'une séquence célèbre de la Voie lactée. Mais il y a une énorme différence, à mon avis, et il faut la voir. C'est que quand Buñuel, dont les films impliquaient un résultat surréaliste, mais quand Buñuel travaillait, tout était prédéterminé. Il n'y a pas un atome d'écriture automatique chez Buñuel. Une fois que le scénario était fait, le tournage n'était que l'exécution. Bon, je me souviens d'un jour, Carole Bouquet m'a raconté qu'il n'était pas là sur le plateau. Quoi. Il s'en allait boire un coup et il laissait le chef opérateur. Tout était fixé d'avance, alors que Ruiz inventait en cours de tournage, constamment. Et même, il y a plusieurs des acteurs que j'ai interrogés qui m'ont raconté la même anecdote. Melville Poupeau, mais aussi Anne Alvaro, à l'époque de La Ville des Pirates. Ruiz faisait toujours la sieste après le déjeuner. Et sur le plateau même, ou à côté, il y avait toujours un lit où, vers 2h de l'après-midi, il se payait une heure de sieste. Il lui arrivait de faire la sieste en intégrant un des objets du plan suivant, c'est-à-dire un poignard, un ballon, etc., et s'endormait avec cet objet dans les bras. Il était persuadé que ça allait passer dans son rêve, et au réveil, il filmait le rêve qu'il venait de faire. Je veux dire, c'est beaucoup plus surréaliste que Buñuel, d'une certaine façon, dans la mesure où il intégrait l'automatisme des rapprochements imaginaires, le rêve, dans sa manière de tourner. Le combat d'amour en songe, c'est un exemple extraordinaire. Il était parti d'une combinatoire thématique d'après l'art combinatoire de Raymond Lull. Bon. C'est-à-dire qu'il avait 9 thèmes narratifs et il les croisait 2 par 2, A, B, A, C, A, D, ou 3 par 3, et tout ça à la puissance 9, ce qui fait 2000 récits possibles au total. Bon, il en avait choisi quelques-uns, mais il s'endormait, il rêvait un peu à tout ça, Et le lendemain, il écrivait à toute vitesse le récit de ce qui allait tourner. Il disait très vite aux acteurs, là, vous allez prendre tel costume, et ils avaient l'impression que Ruiz tournait ses rêves.
Benoît Peter, oui, j'ai une anecdote étrange et peut-être amusante à ce propos-là. Un jour, nous avions une séance de travail pour un projet qu'on développait, et puis je l'appelle pour confirmer le rendez-vous, et il me dit, ah, j'ai un accès de malaria qu'il avait attrapé pendant le tournage de L'île au trésor, j'ai la fièvre, j'ai plus de 40 de fièvre. Je dis, bon, ben remettons le rendez-vous. Non, je suis au lit, mais je m'ennuie un peu, viens quand même. Et donc, j'arrive, la fièvre avait encore monté, on se croyait vraiment dans la mort en ce jardin de Buñuel, avec les délires dans la jungle. Et en fait, c'était encore du Ruiz. C'est-à-dire que ces moments où il était, mais n'importe qui d'autre se serait reposé tranquillement, il était dans un état second ou troisième, il était peut-être toujours dans un état second, et bien son imagination continuait à fonctionner. Ce qui fait que dans les cas où nous avons travaillé ensemble, mon travail était plus de choisir entre les récits qui surgissaient infiniment de son esprit, que d'en inventer d'autres. De temps en temps, j'apportais une nouvelle idée. Mais c'était essentiellement retisser des liens, chercher les meilleurs, choisir et au fond couper, quoi. Monter. Parce que lui, il aurait pu écrire un scénario par semaine. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de proliférant qui donne des moments magiques et merveilleux et qui donne par moments aussi dans les films des séquences où on peut s'égarer, se perdre, décrocher. Et tout le jeu avec lui, que ce soit un producteur comme Paolo Branco ou des chaînes de télé quand il y avait un responsable intelligent qui le comprenait bien, c'était de lui faire savoir que dans cette prolifération, dans ce vertige des récits, en domptant un tout petit peu, on pouvait amener le spectateur à entrer avec lui. Je trouve que c'est le cas, par exemple, dans un des films que je préfère et que Guy Scarpetta analyse très bien, qui est « Trois vies et une seule mort ».« Trois vies et une seule mort », qui est un des derniers grands rôles de Marcello Mastroianni, enfin le dernier grand rôle, une très belle rencontre entre les deux. Et là, la prolifération de Ruiz s'intègre dans un thème, somme toute, très simple, qui est celui des personnalités multiples. Un homme vit parallèlement plusieurs vies. Et comme on a l'unité donnée par l'acteur et l'unité donnée quand même par ce thème assez simple, le spectateur se laisse embarquer dans cette histoire un peu folle, mais somme toute résumable. Dans d'autres films, le dérapage prend le dessus avec des séquences somptueuses et peut-être des moments où on est un peu plus perdu, un peu plus perdu. Mais Ruiz n'avait pas le culte du chef-d'œuvre du tout. Il avait l'énergie du tournage, l'amour extraordinaire du cinéma, et quand un film était imparfait, c'est pas grave, il y a une idée dedans qui m'intéresse et que je reprendrai dans le film d'après.
De toute façon, il en a fait plus de 100, donc il pouvait rattraper une erreur. Alors Guy Scarpetta, justement, je voudrais revenir au côté chilien de Ruiz, parce que même s'il a tourné partout, il a tourné en Italie, bien sûr en France, au Portugal, à Taïwan, dans un cimetière, parce que c'était pratique, et il habitait même le cimetière, parce que le cimetière appartenait au producteur, donc il dormait dans le cimetière. Donc il a tourné même à Hollywood, il a tourné aux États-Unis, donc il a tourné partout. La France, bien sûr, c'est plus de 40 ans de vie à Paris, à Belleville, mais le Chili, ça a compté tout de même. C'est quoi ce pays pour lui et d'où il vient, c'est-à-dire de ses parents, voilà. Est-ce qu'il y a clés peut-être à sa personnalité dans son pays natal?
Il n'idéalisait pas son origine, mais...
Il en parlait beaucoup.
Ça faisait partie de sa singularité. Il disait toujours que le Chili est un pays où les gens sont un peu fous, d'une mélancolie bizarre, de plein pied avec l'irrationnel, rien ne les surprend, ils observent de manière un peu distante. Son père était officier de la marine marchande.
C'est très important, les voyages au long cours.
Il y a une ambiance maritime dans beaucoup de films de Ruiz, une ambiance portuaire.
Il a voyagé comme mousse dès son enfance.
Il a été mousse, oui. Et sa mère était... elle venait d'une famille rurale. Lui-même prétendait qu'il avait du sang indien grâce à sa mère. Mais tous les latino-américains prétendent qu'ils ont du sang indien, sauf les argentins, bien entendu, ce qui est tout à fait à part. Et elle était professeure de mathématiques, ce qui explique aussi son goût pour les paradoxes logiques.
Oui, il y a ce mélange d'aventure maritime et de rigueur scientifique.
Mais c'est une rigueur qui faisait délirer, comme le disait Benoît. N'importe quel système était susceptible de produire ses excès ou ses délires. Quant au Chili, je sais pas, il en parlait un peu comme d'un monde étrange, sympathique, mais en même temps, il avait une culture complètement cosmopolite. Hein,
Ça, c'était borgésien. Oui.
Il lisait tout, dans toutes les, j'allais dire dans toutes les langues, mais dans toutes les cultures, en tout cas.
Les évangiles apocryphes.
Même des textes arides, ardus, des traités métaphysiques de Swedenborg que plus personne ne lit, dont il arrivait à faire un film, quoi. Bon. Alors le Chili, c'est ça, et puis c'est ce pays interminable qui va du nord du cône sud de l'Amérique latine jusqu'à la Terre de Feu, pratiquement jusqu'au pôle, avec quelque chose qui est très sensible, par exemple dans la ville des pirates. Il a passé son enfance dans l'archipel de Chiloé, qui est au sud du Chili, et il y avait des îles qui, évidemment, quand il y a de la brume, disparaissaient et réapparaissaient, d'où les légendes. L'île disparaît réellement, passe dans un monde parallèle et revient. Et c'est un des sujets majeurs de la ville des pirates. Il y avait cette espèce de sens de l'évanescence, de la disparition. En même temps, il était très fier du Chili. Quand il a pu y revenir après une période d'exil, où il a d'ailleurs toujours refusé de demander l'asile politique parce qu'il voulait pouvoir revenir voir ses parents qui étaient restés. Donc il a parfois risqué gros en retournant là-bas, puisqu'il avait été l'un des conseillers pour le cinéma du gouvernement de Salvador Allende. Donc il était dans le collimateur du régime de Pinochet. Mais quand il revenait, il était ravi de ramener du vin chilien, des conserves d'oursins ou de fruits de mer. Mais en même temps, je n'ai jamais vu chez lui un chauvin. Hein. Sa culture était mondiale et il était capable tout aussi bien de parler de légendes chinoises comme celles qui ouvrent Généalogie d'un crime ou Il a adapté Dante, il était à l'aise avec la littérature anglophone. Non, son univers était... Voilà. Il y a une phrase que je trouve extraordinaire chez lui, c'est à propos de Proust, quand il a dit, peut-être de Guerlas, au bout du énième interview où on lui posait la même question, « Je n'ai pas adapté Proust, je l'ai adopté ». Et ça, c'est une phrase merveilleuse, parce que c'est vrai que pour les grands amateurs de Proust, et je crois en être, il y a eu quelque chose au départ comme un petit recul à voir comment il transformait les associations de souvenirs de Proust en hallucinations, comment il y avait des flux temporels qui devenaient des apparitions, comment il inventait la rencontre de plusieurs personnages à des époques différentes de leur vie, dans le même plan, etc. Et en même temps, il a propulsé Proust dans le monde latino-américain. Ça me paraît évident, et c'est l'intérêt du film.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
On évoquait le Chili, on va l'entendre maintenant justement parler, parce qu'il a fait plusieurs films, la plupart non inachevés au Chili. On va l'entendre, Raoul Ruiz, parler d'un court-métrage, La Maleta.
D'abord j'ai fait un film et puis j'ai commencé à apprendre le cinéma. J'ai commencé au théâtre, donc... Au Chili, faire un film, c'était... Maintenant, c'est possible, mais à l'époque, c'était presque une folie, parce que ça coûtait horriblement cher, d'un côté. Mais j'ai eu l'aide des départements de cinéma de l'Université du Chili, et surtout de quelqu'un qui a débarqué là, Julie Stevens. Comme on m'a reproché d'être surréaliste, que la culture du pays était plutôt tendance marxiste, chose que j'étais aussi... un peu, Et Ibn Sadi, de toute façon, toutes les jeunes sont surréalistes, donc laissez faire. Et on m'a laissé faire. Le film s'appelait La Valise, La Maleta. Et il est resté, et puis il a eu des réticences de toutes sortes. Finalement, il a terminé dans la poubelle, il a disparu, on l'a déclaré disparu, et on l'a retrouvé dans la même poubelle l'année dernière. Alors, on l'a repris et je l'ai terminé. Donc maintenant, le film est sorti dans un festival, un film 20 minutes. Hein. Oui, va sortir, il n'est jamais sorti avant.
Voilà, mais c'est, on voit vraiment dans une capsule tout l'humour de Raoul Ruiz. Alors, donc, les analyses de Guy Scarpetta, d'abord, l'avantage, c'est qu'il porte sur des films qui sont tous accessibles. Parce qu'on va parler, évidemment, de cette œuvre proliférante, de plus de 100 films qu'il a tourné, mais les auditeurs peuvent tout de même, d'abord, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ont vu dans leur vie quelques films, un film de Raoul Ruiz, que ce soit, comme vous citiez, Trois vies, une seule mort, ou bien Généalogie d'un crime, ou bien Ce jour-là, ou bien l'adaptation de Proust dont on parlait, Le temps retrouvé, ou bien La ville des pirates, ou bien L'hypothèse du tableau volé, qui est La vocation suspendue, qui sont tous les deux adaptés de Klossowski, et puis le dernier film qui a eu le prix de Luc, Les Mystères de Lisbonne, magnifique film réalisé, il y a une version télévisée et une version cinéma, donc ils sont accessibles. Il a tourné aussi avec les plus grands acteurs, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il est passé de films quasiment clandestins et expérimentaux à des productions où on retrouve Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, etc., Benoît Peters.
Oui, il a été heureux dans les films fauchés avec des acteurs de théâtre, et il est resté le même par certains côtés quand il a travaillé avec les acteurs les plus célèbres, par une filière qui est passée sans doute par Melville Poupeau, puis Chiara Mastroianni, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, et ainsi de suite, peu à peu, tous les acteurs les plus fameux, comme Malkovich et bien d'autres, voulaient tourner avec lui. Il était le même. Il était sur un plateau aussi courtois avec le stagiaire qu'avec la vedette. Il se comportait de la même façon sur un film très cher et très luxueux, et beaucoup d'acteurs restent frappés par la sérénité qui pouvait régner sur ces plateaux. C'est le seul cinéaste, par exemple, que j'ai vu, au terme d'une journée de travail, inviter l'équipe ou une partie de l'équipe chez lui pour un repas qu'il allait préparer lui-même. C'est des choses invraisemblables. Il demandait des plans très compliqués à ses techniciens, mais ils en redemandaient. Il prolongeait les journées parce que c'était des défis et parce que chacun, sur un plateau de tournage, avait l'impression de donner un petit peu autre chose. C'est-à-dire, c'est un plan impossible, donc on va le faire. C'est ça qui est vraiment intéressant et amusant. Par rapport à l'acteur, c'était à la fois déstabilisant et, je crois, extrêmement libre et serein, où chacun pouvait exister vraiment avec ce qu'il était. Donc je retiens aussi de Ruiz et de la fréquentation que j'ai eu la chance d'avoir pendant ces années, une sorte d'éthique du cinéma. Vous savez, c'est un métier où les gens se plaignent beaucoup. Beaucoup de cinéastes parlent des films qu'ils n'ont pas pu tourner, des projets qui ont été refusés, des dossiers qui se sont lisés, du budget qui a été divisé. Chez Ruiz, il n'y avait jamais de plainte. Il y avait l'idée que, par exemple, si on lui proposait un stage avec des comédiens, il allait transformer le stage en film. Il y avait l'idée que s'il manquait quelque chose, on allait se servir de ce manque pour inventer autrement. Et ça, c'est quelque chose de très rare et de très beau. Et je l'ai vu dans les périodes d'insuccès et d'obscurité, comme dans les périodes de grand succès, de mise en lumière à Cannes et ailleurs. Je l'ai vu le même homme, et gardant cet amour du cinéma très communicatif qui, je pense, est aussi une leçon éthique.
Alors, les témoignages que vous avez recueillis, Guy Scarpetta, confirment en plus le rapport étroit avec les comédiens. Et les comédiens ne sont pas en face d'un intellectuel cérébral, comme on pourrait le penser, avec ses références permanentes à des tas de livres peu connus, etc. Mais au contraire, un attachement profond à l'homme. Malkovich, par exemple, est d'une admiration sans bornes.
Oui, tous les acteurs et les actrices et toutes les actrices que j'ai interrogées m'ont parlé de leur expérience avec Raoul Ruiz comme de quelque chose d'exceptionnel. Quand la Ville des Pirates a été terminée, quand le tournage de la Ville des Pirates a été terminé, Anne Alvaro a fondu en larmes à l'idée que c'était fini. Féodor Atkin me raconte que quand ils ont terminé la scène de Trois vies et une seule mort, où il a un marteau enfoncé dans la tête, où il parle avec Mastroianni quand même, c'est une scène un peu difficile à tourner parce que Ruiz avait inventé de faire en sorte que les décors bougent, c'est-à-dire qu'elle avait mis les décors sur rail pour qu'on ait une impression de vertige, etc. Ça s'est terminé vers 4h30, Ruiz a dit on arrête, etc. Il y a eu un silence et il y a eu une délégation de techniciens qui est venue et qui a demandé à Ruiz est-ce qu'on ne pourrait pas en faire encore un peu. Alors ça, au cinéma, c'est absolument inouï. En général, les techniciens n'ont qu'une envie, c'est de se barrer le plus vite possible. C'est archi connu. Bon, et là, ils en redemandaient. Et ça a été comme ça. Malkovich me dit, quand je suis arrivé sur le tournage du Temps Retrouvé, je maniais encore pas très bien le français. Tout le monde parlait français très vite. Je comprenais pas très bien. Et comme tout le monde était là, je savais pas si j'étais dans le plan qu'on allait faire ou si j'y étais pas. Et j'ai demandé à Raoul, à un moment, est-ce que je suis dans ce plan-là ? Et Malkovich me raconte que Raoul, à ce moment-là, a tout arrêté et pendant un quart d'heure a expliqué à Malkovich pourquoi les platanes perdaient leur écorce l'été. Et puis après, on a été tout. Bon, voilà. Et Malkovich raconte, là, j'ai compris que c'était un metteur en scène pour moi. Bon, c'était. Voilà. Il y avait une fantaisie, il y avait une générosité, il y avait
un humour permanent.
La bouffe, c'était très important. Il la faisait ou il emmenait les gens découvrir la bouffe locale au Portugal, etc. Le vin était très important, encore que Melville Poupeau tient à dire, par exemple, qu'il ne l'a jamais vu vraiment ivre. C'est-à-dire que même dans les soirées très arrosées, le lendemain, il était là à l'heure. Il n'y avait pas de problème. Simplement, il y avait cette espèce de griserie qui était.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Ruiz vit son rapport à la communauté cinématographique française. Parce que ça n'a pas été évident. Je veux dire, il arrive vers 1974, 73, en France. Et il n'est pas du tout dans la nouvelle vague. Il ne professe pas partout son admiration pour Truffaut ou pour Chabrol. Pas du tout. Il s'adresse à des chefs opérateurs qui sont un peu opposé à l'esthétique de la nouvelle vague, c'est-à-dire à la transparence, à Rossellini, au néo-réalisme, enfin d'où sont issus les 400 coups, etc. Il prend des gens comme Henri Alecan, comme
qu'il
Sacha.
Qu'il a redécouvert. Qui a fait tourner Alecan, parce qu'à un moment, il dit à Sacha Vierny, je voudrais une lumière à l'Alecan. Voilà. Et Vierny lui dit, mais alors pourquoi tu ne prends pas Alecan? Il dit, mais parce qu'il doit être mort.
Alecan qui avait, il faut rappeler aux auditeurs, qui avait photographié par exemple La Belle et la Bête. Donc on n'est pas du tout dans cette esthétique-là. Sacha Vierny, bien sûr. Ricardo Aronovic, l'Argentin, qui filmait les films de Ruy Guerra, qui filmait dans un registre pas du tout justement réaliste. Comment ça s'est passé? Parce qu'il n'a pas été adoubé facilement. Il n'a jamais fait vraiment partie de. Je ne crois pas qu'il ait eu de César ou de récompense de ce genre. Certes, il a été à Cannes en compétition plusieurs fois. Il a fini par s'imposer, mais il n'y avait pas tout de même une grande adhésion à son cinéma qui était plus proche du surréalisme, en tout cas, même si
Guy
Scarpetta
a
raison de dire que c'est différent de Buñuel, mais enfin, c'est vrai, dans sa façon de tourner, mais il appartenait plus à un cinéma de l'imaginaire.
Oui, il n'appartenait pas à la famille du cinéma français.
René serait peut-être le cinéaste le plus proche. Un peu. Alain René, Marion Bade, ou des films comme ça, ou Je t'aime, je t'aime.
Oui, mais bon, c'est la famille de Méliès, alors qu'on peut dire que la famille Lumière dominait à ce moment-là, dans les années 60 et 70, si on divise les choses très simplement. Lui était du côté de Méliès, il adorait le trucage fait avec peu de moyens au moment du tournage, beaucoup plus que les trucages en post-production. Il adorait les récits débridés. Et il ne faisait pas de différence entre court-métrage, long-métrage, documentaire, émission de télévision, film de fiction. Il refusait ces catégories-là, ce qui fait que pendant des années, les premières années de son arrivée en France, c'est l'INA qui l'a sauvé. L'INA qui avait un département de production, l'Institut National d'Audiovisuel, qui ne se contentait pas d'archiver, mais qui produisait aussi. Ruiz était tellement disponible et sympathique que quand il y avait une commande Même un gratte qui se présentait, on lui disait « Est-ce que ça t'intéresse ?» Et il le faisait. Il a par exemple réalisé un film qui s'appelait « Histoire de France », qui l'avait beaucoup intéressé parce que c'était pour lui l'occasion de découvrir l'histoire de France, où il avait pris toutes les dramatiques des buts de Chaumont, représentant Louis XI, la Révolution française, Jeanne d'Arc, etc. Et il remonte ça en 2 fois 50 minutes, en passant d'un plan à l'autre, d'une dramatique à une autre, d'un acteur à l'autre, et en donnant à la fois... un résumé presque humoristique de l'histoire de France et une leçon sur les codes cinématographiques. Mais c'est un jeu, il le fait, il le prend. Puis à un moment, on lui propose d'adapter Klossowski, dont il a trouvé un livre dans un aéroport au cours d'un voyage.
C'est déjà assez improbable. À la une.
Et il devient ami avec Klossowski. Il fait deux films d'après lui, qui sont des films bizarres, étranges, toujours dédoublés, etc. Et petit à petit, il trouve des possibilités. Alors, il a une petite heure de gloire au moment des Trois Couronnes du Matelot. Les Cahiers du cinéma lui consacrent un numéro spécial. Il y a des articles un peu partout. Et puis là, il va avoir une période encore plus bizarre où il lit théâtre et cinéma, d'abord à la Maison de la Culture de Grenoble, puis à la Maison de la Culture du Havre. Et il va falloir pas mal d'années pour qu'il revienne à la lumière. Au fond, c'est un électron libre. Et s'il n'y avait pas eu l'amitié et la relation dense construite avec Paolo Branco, je pense qu'on n'aurait pas vu les grands films de Rouy. C'est-à-dire que Branco, qui est quand même un producteur extravagant, qui survit à plusieurs faillites, qui rebondit, qui va faire tourner Oliveira et permettre une très belle fin de carrière à Oliveira, dans le système portugais, va donner à Ruiz la possibilité de tourner de manière moins chère, dans des décors très beaux, sans s'obséder sur le scénario. Parce que s'il y avait une chose que Ruiz détestait, c'était finalement la filière classique du cinéma français, le scénario dont 7-8 versions ont été réécrites, l'avance sur recette, etc. Je me souviens, on écrit le scénario de La Chouette aveugle ensemble, et je marque...
D'après un très beau roman,
d'après le roman
de Sadeg et Dayat.
De Sadeg et Dayat, et je lui rends le premier scénario en marquant version 1. Il me dit, écoute, le scénario est bien, mais surtout ne mets pas version 1, ça ne fait pas sérieux, on va mettre version 6. Et donc, à partir de là, on passe tout de suite à la version 7, à la version 8, ça fait sérieux. Ça, c'est typique de Ruiz. Je contourne le truc, on est à la version 6, parce que de toute façon, toute personne qui recevra le scénario aura envie de critiquer. Là, on donne le sentiment qu'on est déjà dans un palimpseste.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Alors, il faut dire aussi que Ruiz était aussi écrivain. Il a écrit d'ailleurs un roman assez tard dans sa vie, mais il a aussi écrit des essais. Il faut rendre hommage à, de même qu'il avait Paolo Branco, un producteur fidèle, il y avait une éditrice fidèle, c'est les éditions d'Ivoire. Mmh. Et j'ai vu, je relisais récemment un passage du Poétique du cinéma 2, puisqu'il y a deux volumes, consacrés à l'ombre, et il y a des propos que tient au dos de couverture Raoul Ruiz, qui est de dire que Goethe disait sur son lit de mort « plus de lumière », et dit « moi j'ai vu une seule fois dans ma vie Orson Welles sur un tournage », et il disait « moins de lumière », et Ruiz ordonnait le retour à l'ombre, aux cavernes, la fameuse caverne de Platon. Et les noms d'Alecan, de Vierny, d'Aronovitch comme chef opérateur l'indiquent, il y a une tentation expressionniste chez Ruiz. Biscarpetta.
Bon, expressionniste, je ne sais pas. En tout cas, il tournait le dos au réalisme. Mais c'est pour ça, pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, qu'il tournait le dos au dogme de la nouvelle vague. Bon. La prise directe de la réalité, ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était de créer un monde. Alors ce monde passait par un jeu avec les ombres, par des effets de lentilles découpées qui font qu'il y a un premier plan énorme, gigantesque, qui coexiste avec un arrière-plan tout aussi net, fait que deux espaces hétérogènes peuvent coexister. Il y a toujours plusieurs choses à voir dans un plan de Raoul Ruiz, jamais une seule. Il y a une syntaxe narrative surtout qui est extraordinaire, et tout ça est évidemment très loin de la Nouvelle Vague. Mais encore une fois, l'important pour lui, c'était que chaque film crée un monde. Voilà. Le film n'est pas là pour refléter la réalité, le film n'est pas là pour donner un point de vue sur la réalité, le film est là pour créer une réalité qui n'existe pas ailleurs que dans le film. Et donc c'est une expérience dans laquelle il faut s'embarquer avec une absence totale de préjugés, se laisser aller, essayer de comprendre quand on peut, si on ne comprend pas, se laisser aller à la dérive imaginaire dans laquelle il nous entraîne. Et c'est, je crois, un cinéaste totalement, totalement exorbitant. Et par rapport à ce que vous disiez, son rapport au cinéma français, etc., c'est vrai que c'était pas sa famille. Bon, encore qu'il avait des goûts parfois, moi, qui m'étonnaient. C'est lui qui m'avait demandé de lui présenter Rob Grillet, par exemple, parce qu'il aimait beaucoup un film comme L'homme qui ment. Qui est d'ailleurs un des meilleurs films de Rob Grillet, qui est un film...
Un des moins mauvais, oui.
Oui, ou la... Je dirais un des meilleurs. où la réalité se construit au fur et à mesure que le personnage l'invente. Bon,
il a fait jouer Rob Grillet, d'ailleurs,
C'est Rob Grillet qui jouait Edmond Goncourt dans le Temps trouvé. Le fameux pastiche du dîner chez les Goncourt est incarné par lui. Il disait beaucoup de bien de Fulz, ça je me souviens. Et je crois qu'il y a une certaine parenté, justement, dans le côté hérité de Méliès, et puis dans la construction. Où chez Fulz, la progression dramatique est toujours contrariée par des formes de progression circulaire, enfin des choses comme ça. Mais je crois quand même que si on regarde Raoul dans le panorama du cinéma de son temps, du cinéma qui lui a été contemporain, il est à contre-courant. C'est quelqu'un qui, aussi bien par le primat de l'imaginaire qu'il impose que par les inventions formelles qui sont assez étonnantes, chaque grand plan des films de Ruiz est une invention, se situe à contre-courant d'un cinéma qui s'enlise un peu dans un naturalisme, dans le reflet de la réalité. C'est un cinéma contre-courant. J'ose dans le livre le comparer à celui de ces créateurs qui ont produit une œuvre géniale complètement à contre-courant de leur époque. Bon, le Picasso de la fin, hein, qui invente un art baroque foisonnant, exubérant au moment où triomphe le minimalisme et l'art le plus abstrait qui soit. Jean-Sébastien Bach qui invente les grandes formes baroques au moment où le baroque est déjà passé de mode et où c'est le style galant dans lequel ses fils s'illustrent qui triomphe. Et Ruiz, il invente un cinéma. Il m'avait dit un jour, il faut inventer le cinéma du XVIIIe siècle. Alors ça, j'étais un peu interloqué. Il me dit, oui, il y a deux modèles. Il y a le modèle wagnérien, c'est-à-dire le créateur qui impose son univers, qui en contrôle tous les paramètres. Et puis le modèle Jean-Sébastien Bach, on fait une commande, et bien on fait passer son génie à travers les contraintes de la commande. Voilà. Et d'ailleurs, il a oscillé entre les deux, sans cesse. Mais comme le suggérait Benoît tout à l'heure, avec autant d'aisance dans le registre où il dominait tout, que dans le registre de la petite commande qu'il fallait satisfaire en essayant d'y faire passer quelque chose. Autant d'aisance et autant de liberté.
Mais il ne faisait rien, effectivement, pour séduire ses contemporains, l'intelligentsia, etc. Par exemple, quand il dit, dans un entretien avec vous, je crois, Benoît Peters, « Ce Sartre représente pour moi et représente encore aujourd'hui le comble de la mesquinerie humaniste et philosophique », c'est tout de même des phrases extrêmement provocatrices. Donc, il ne respectait pas tellement les totems. Mais alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que la reconnaissance de Ruiz est venue très tôt en Europe, puisque c'est son premier film vraiment terminé, « Trois tristes tigres ».
Son premier long métrage.
Oui. Le premier long métrage terminé, mais qui n'a rien à voir avec le roman de Cabrera Infante, qui est le romancier cubain, qui s'appelle aussi Trois tristes tigres. Il remporte tout de même, en 1968, à 27 ans, le Léopard d'or à Locarno. D'ailleurs, ex aequo avec Charles Maurouvif.
De Tanner. Ce n'était pas un mauvais choix pour Locarno, Tanner et Ruiz.
C'est un palmarès qui reste debout. Oui.
Tout à fait. Et ce qui fait qu'il aura, il va quand même bénéficier d'un certain prestige au moment du coup d'État de Pinochet. On sait qu'il est menacé et il va être protégée, exfiltrée, on pourrait dire, alors qu'un peu moins connu en Europe, il aurait été véritablement en grand danger. Donc c'est quelqu'un qui, dans les cinéastes d'Amérique latine à ce moment-là, bénéficie déjà d'une certaine réputation, même s'il ne correspond pas au modèle qu'on attend, puisque c'est vrai que c'était plutôt genre Elvio Soto avec des films très politiques, très, très engagés, c'était ça qu'on voyait, Miguel Littin, enfin ce genre de cinéaste avait à l'époque la réputation. Ruiz était déjà un bizarre, mais quand même un bizarre qui avait été reconnu. Et au fond, il navigue entre le modèle un peu bricolé du cinéma latino-américain de ce moment-là, le modèle quand même assez libre et parfois énergique que la Nouvelle Vague a proposé, ou les premiers films de Bergman, et puis quelque chose qu'à la fois il connaît et qu'il refuse dans le cinéma américain. Il a grandi avec le cinéma américain, il aime les films de genre, il aime les séries B.
Mais il n'aime pas les films en trois actes, il n'aime pas les films, le modèle du scénario qu'on doit...
Ah ça, c'est l'opposition de toute sa vie, c'est la théorie du conflit central. L'idée qu'un film repose sur la volonté d'un individu qui, malgré les obstacles qui s'accumulent sur sa route, finira par atteindre son but. Il me racontait, par exemple, cette histoire, voilà, on reconnaîtra des tas de scénarios possibles. C'est un jeune homme d'une famille pauvre qui rêve de devenir chirurgien. Hélas, enfant, il a un accident, ses mains sont abîmées, il va devoir se reconstruire les mains, lutter contre la pauvreté. Et à la fin du film, il opérera, là j'ajoute une péripétie romanesque, il opérera l'automobiliste même qu'il avait renversé enfant. Ce type de scénario lui semblait ridicule par rapport à la réalité latino-américaine, beaucoup plus ouverte, et appartenir à une théorie 19e siècle de la volonté.
On va encore entendre une nouvelle fois, une deuxième fois, Raoul Ruiz dans un extrait d'entretien radio au micro de Laure Adler.
Moi, je bougeais plutôt dans un monde surtout des dérisions de la comédie, si on veut. Comédie surréelle, comme on peut l'appeler comme on veut, mais de la comédie. Et d'un coup, il y avait autre chose en France. Avec Klossowski, j'ai appris cet étrange sens de l'humour lié à, comment on peut dire, à la solennité, au rituel, à la liturgie. C'est la liturgie détournée. Or, comme j'ai un passé catholique, ça m'a tout de suite réveillé. Et puis, j'ai eu une maladie compliquée. On m'a mis à l'hôpital, on m'a opéré. Et j'ai sorti de l'hôpital amateur des bandes dessinées et des trucs flamboyants. D'un coup, j'ai eu envie de faire des films plutôt dans le monde, je peux dire, de ma famille. Ma famille sont des marins, des matelots, capitaines de bateaux, contremaîtres, du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'était des paysans du centre, donc des gens qui n'ont... Ma mère n'avait jamais vu la mer jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle a vu la mer, et devant la mer, il y avait mon père, donc... Et derrière, je suis venu.
Donc, voilà cette voix de Raoul Ruiz qui est venue souvent à Projection Privée pour parler de son œuvre. C'était vraiment un cinéaste majeur. Et je pense que votre livre, Benoît Peters et Guy Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien aux impressions nouvelles, rend merveilleusement compte de cet accomplissement que représente son cinéma très contemporain. Je signale aussi que la Cinémathèque française, en mars-avril, va faire une rétrospective complète de ce qu'on peut retrouver, parce que c'est considérable. Et il y aura une autre émission avec des participants des films de Raoul Ruiz. En tout cas, pour l'instant, les auditeurs peuvent se procurer donc ce livre tout à fait complet avec une filmographie exhaustive de Raoul Ruiz. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un livre pour lequel il faut casser sa tirelire, parce qu'il coûte 150 euros, mais j'ai tenu à en parler avant les fêtes, justement. Un livre monumental, extraordinaire, et je pèse mes mots, Les archives Chaplin, chez Tachen, qui est un livre de 560 pages, mais très grand format. Il faut un lutrin, il faut, avec des milliers de photographies, des textes absolument incroyables. On sait que Tachène a déjà fait le même travail sur Kubrick, sur Bergman, sur Almodovar et sur James Bond. Mais pour son cinquième volume Mastoc, Il s'est surpassé, et pour en parler, j'ai demandé à Hubert Niogret, spécialiste qui a publié beaucoup sur Chaplin, de venir en parler. Je signale aussi qu'il y a un petit bout de pellicule extrait d'une copie 35 mm des Lumières de la ville qui est ajoutée en bonus à cet ouvrage. Alors Hubert Niogret, comment parler de ce monstre qui est vraiment une somme inouïe sur Chaplin?
Alors il faut d'abord expliquer que dans cette collection cinéma de chez Tachène, c'est un peu toujours le même principe, dirigé par Paul Duncan, qui est de raconter une histoire, et l'histoire là d'une création, par un montage de témoignages, d'interviews, de commentaires. Les commentaires sont assez réduits. Alors, ils ont fait ça dans d'autres ouvrages sur le cinéma. Là, évidemment, c'est particulièrement riche parce qu'ils ont eu accès aux archives Chaplin. Quand Chaplin est parti des États-Unis, où il ne pensait pas revenir, ou d'ailleurs, il n'est pas vraiment revenu, sinon pour un Oscar symbolique, et s'est installé en Suisse, Sidney Chaplin et Willard Dreyden, qui étaient les frères et demi-frères de Chaplin, ont récupéré les archives accumulées depuis la date où Chaplin a commencé à tourner des films. Et ils ont envoyé des centaines de caisses à Vevey, en Suisse, où s'était installé Chaplin.
Il y avait, je crois, même 150 albums, rien que de coupures de presse.
Oui, oui. Alors, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y avait, sur chaque film, scénario, synopsis, feuille de service, plan de travail, rapport de tournage, coupure de presse, contrat d'engagement des techniciens ou des comédiens. Enfin, c'était les archives que toute production normale, d'ailleurs, organise autour d'un film. Sauf qu'évidemment, avec Chaplin, ça concerne des centaines de films dont il n'était pas forcément, au départ, le propriétaire, le producteur. Et donc, ces archives, il y a quelques années, ont été numérisées par la Cinémathèque de Bologne, ensuite ont été renvoyées à Vevey, et prochainement, je crois en septembre de l'année prochaine, sauf erreur, ça va constituer une partie du musée qui va être ouvert dans la propriété de Chaplin, où une construction a été faite pour accueillir un musée Chaplin. Voilà. Et alors, évidemment, c'est une richesse incroyable, avec un détail parfois sur certains éléments. Sur
l'iconographie. L'iconographie est
fabuleuse. Oui, l'iconographie.
Parce que sur chaque court-métrage, il y a des dizaines de photos.
Oui, les archives comprenaient aussi les photos. Et puis, le détail, c'est-à-dire comment un plan a été tourné, comment une fois, ça c'est sans doute le record, il a fait 220 prises d'un plan. Parce qu'il n'arrêtait pas, je dirais, c'était à la fois une idée, une improvisation, un perfectionnement, une modification, une évolution. Et donc, parfois, il tournait sur 3 jours un plan, et puis il revenait dessus 15 jours après. Enfin, on voit, ça a été la volonté de Paul Duncan, c'est d'essayer de faire comprendre comment Chaplin travaillait. Alors, il y a un ancêtre un peu par rapport à ça que je voudrais citer parce que je trouve que c'est une sorte de chef-d'œuvre. C'était le documentaire que Kevin Brownlow avait fait sur Chaplin.
Chaplin inconnu.
Kevin Brownlow avait été au courant que les rushs non montés, les outtakes, allaient être vendus aux États-Unis parce qu'ils n'appartenaient pas, pour la plupart des films, à Chaplin. Et au bout d'un moment, les ayants droit ont dit « bon, ça ne servira jamais » et tout. Et il est arrivé à récupérer tout ça, et avec ça, il a fait ce documentaire absolument extraordinaire, Chaplin inconnu, où on voit comment Chaplin travaillait de la prise 1, 2, 14, 28, 36... Voilà, alors ça c'est un peu, évidemment Duncan connaît le film de Brownlow, il a d'ailleurs utilisé certains témoignages de certaines interviews de Brownlow, et il a voulu faire un petit peu l'équivalent dans cette somme incroyable, ce livre qui pèse 6 kilos, pour lequel il faut vraiment avoir un bureau pour pouvoir le lire. Et tout, mais qui est absolument incroyable. Je veux dire.
Alors, ça commence très fort, parce que ça commence par, premier chapitre, c'est la préface possible à Histoire de ma vie, son autobiographie, qu'il n'a jamais publiée. Et je trouve que ça révèle un autre Chaplin que celui qu'on imagine. Voilà ce qu'il dit. « La pauvreté, loin de m'apprendre quoi que ce soit, a déformé, perverti mon sens des valeurs et m'a inculqué une conception erronée de l'existence, sans pour autant me doter de compassion pour les pauvres ou d'une conscience sociale. La pauvreté ne réussit qu'à vous rendre apathique. » C'est tout de même une révélation incroyable sur un homme qui est présenté toujours comme un humaniste, etc. Voilà. Et c'est le double visage de Chaplin. Et ce livre est vraiment, vraiment étonnant. Il y a des choses, par exemple, sur ce film de Sternberg qu'il a produit, Woman of the Sea, et qu'il a détruit.
En 1933, oui, qui a été totalement détruit. Pendant des années, on s'est interrogé s'il n'y avait pas quelque part une copie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait détruire le négatif. Quelles en sont les raisons ? C'est évidemment très mystérieux. Pourquoi ? Par jalousie ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a fait détruire ce film dont il était le propriétaire, puisqu'il l'a fait produit par admiration pour Sternberg.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un peu comme si à Projection Privée, on faisait une table ronde avec 5 personnes et qu'on introduise la voix d'Orson Welles. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt la voix de Chaplin, tirée de déclarations, d'émissions, de livres, d'interviews, et puis des historiens d'aujourd'hui qui discutent et on introduit la voix de Chaplin.
Et des témoins d'hier, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de comédiens, de techniciens qu'on travaille avec lui. Alors, autre révélation d'ailleurs dans ce livre, à un moment, un interview que je ne connaissais pas, de Chaplin, où il dit « Je déteste la comédie ». Alors ça, c'est quand même très surprenant. C'était pas ça ce qu'il voulait faire. Il voulait faire des grands films dramatiques.
Il dit aussi que s'il avait été informé des horreurs des camps de concentration, il n'aurait jamais fait le dictateur. Il dit « j'aurais pas pu me moquer de la folie homicide des nazis ».
Oui. Vous voyez le problème de est-ce qu'on peut faire rire sur, sur ces problèmes-là. Non, c'est un livre passionnant parce que c'est une globalité comme ça sur la vie, la carrière de Chaplin. Alors, c'est indépendant d'une espèce de ce que pourrait être une analyse de Chaplin. C'est pas ça. Ce que pourrait être une étude interprétative.
Non, mais c'est montrer visuellement et oralement la création à l'œuvre.
Oui, c'est ça. Ça, c'était évidemment... C'est pour ça que j'ai cité Brandlow, parce que c'était le but de Paul Duncan, qui fait vraiment un travail incroyable pour ta chaîne, parce que c'est lui qui a fait la plupart des livres de cinéma. Le Kubrick, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui avait fait le James Bond.
On n'a pas l'idée du nombre de photos, parce que c'est plusieurs milliers de documents.
Oh non, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et alors évidemment, comme le livre est de très grand format, il y a beaucoup de photos pleines pages. Alors, elles sont magnifiques, d'autant plus qu'il y a eu un soin à ne prendre que des photos techniquement très bonnes. Mais il y avait, à l'époque, même à partir des années 10... des photos de plateau qui étaient formidables parce qu'on faisait poser les photos de plateau. Et ça, c'est très drôle dans les comédies où on voit les gens qui prennent des poses.
C'est un arrêt sur image. Merci beaucoup, Hubert Niogret. Donc, je rappelle la sortie de ce livre « Les archives Chaplin » ou « The Chaplin Archives » par Paul Duncan. Vraiment un livre mammouth. Et je le recommande évidemment, encore une fois, il faut faire appel à des oncles riches pour avoir ce cadeau idéal pour les fêtes. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon. Elle a été réalisée par Laetitia Coya, à la prise de son Valérie Lavalard. Elle a été préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez la retrouver pendant un an et la télécharger sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre.